Nous avons trop tendance à devenir pareils au pire de nos ennemis. Coda Bene Gesserit. Encore ces images aquatiques. Nous sommes en train de transformer toute cette fichue planète en désert, et j'ai des visions aquatiques. Audrade était assise dans son bureau, face à la montagne de travail qu'elle avait l'habitude de voir chaque matin. Elle sentait l'enfant de la mer flotter dans les vagues, qui l'emportaient et la faisaient rouler dans tous les sens. Les vagues avaient la couleur du sang. L'enfant de la mer qui était en elle s'attendait à des temps sanglants. Elle savait quelle était l'origine de ces images. C'était l'époque antérieure à celle où les révérendes mères avaient commencé à régenter sa vie. Son enfance dans la merveilleuse demeure au bord de l'océan de Gameux. Malgré ses préoccupations immédiates, elle ne put s'empêcher de sourire. Les huîtres que préparait papa, en ragoût, son plat préféré aujourd'hui encore. De toute son enfance, ce dont elle se souvenait le mieux, c'était ses incursions dans la mer. Se laisser flotter était une sensation qui parlait à la partie la plus vitale de son être. Se laisser soulever puis retomber avec la vague, avoir le sentiment d'être entouré d'horizons sans limite et de percevoir d'étranges nouveaux endroits juste au-delà de la frontière incurvée d'un monde d'eau, cette exaltante ligne de danger inhérente à la substance même qui la portait. Tout cela se combinait pour lui affirmer qu'elle était bien l'enfant de la mer. Papa était également plus calme dans cette ambiance. Et maman Sibia était plus heureuse, ses cheveux noirs flottant autour de son visage levé au vent. Il émanait de ces temps-là un sentiment d'équilibre radieux, comme un message rassurant exprimé en un langage plus ancien que les plus anciens souvenirs de sa mémoire seconde. « C'est là que je suis bien, c'est mon vrai milieu. Je suis l'enfant de la mer. » Sa conception personnelle de la santé mentale venait de cette époque-là. La faculté de trouver son équilibre dans des eaux inconnues. La faculté de préserver son moi le plus profond en dépit des vagues inattendues. Maman Sibia avait inculqué cette faculté à Audrade bien longtemps avant que les révérendes mères ne viennent chercher l'héritière des Atréides qu'elle lui avait confiée en secret. Maman Sibia, qui n'était qu'une simple nourrice, mais qui avait enseigné à Audrade l'amour d'elle-même. Dans une société Bene Gesserit où toute forme d'amour était suspecte, cela demeurait le secret le plus précieux d'Audrade. Au fond, je suis heureuse avec moi-même. Je ne crains pas la solitude. Il est vrai qu'aucune révérende mère ne pouvait plus, à proprement parler, rester seule après avoir connu l'agonie de l'épice qui lui ouvrait les vannes de la mémoire seconde. Il n'en restait pas moins que maman Sibia, et aussi papa, certes, agissant in loco parentis pour le Bene Gesserit, avait transmis une force profonde à celle dont ils avaient la charge durant ces années secrètes. Et les révérendes mères avaient été réduites à amplifier cette force. Les rectrices avaient essayé d'extirper la tendance profonde d'Audrade à établir des liens d'affinité personnelle, mais avaient en fin de compte échoué, sans avoir vraiment la certitude de leur échec. Perpétuellement suspicieuses à cet égard, elles avaient fini par l'envoyer sur Al-Danab, un monde délibérément maintenu dans des conditions rappelant ce qu'il y avait de pire sur Saloussa Secundus, pour qu'elle y soit formée dans un environnement qui était en lui-même une épreuve de tous les instants. Une planète plus dure que d'une sous bien des aspects. Hautes falaises et précipices arides, vents torrides et tempêtes glaciales, sécheresse et humidité excessive. Les sœurs avaient jugé que c'était l'endroit idéal pour aguerrir ceux qui devraient plus tard s'efforcer de survivre sur Dune. Mais rien de tout cela n'avait pu entamer le noyau secret d'Audrade. L'enfant de la mer était demeuré intact. Et c'est elle qui me met en garde à présent. Était-ce un avertissement prescient? Elle avait toujours eu en elle ce petit talent, ce frémissement interne qui lui annonçait l'existence d'un péril immédiat menaçant le Bene Gesserit. Les gènes Atréides lui rappelaient qu'ils étaient là. La menace concernait-elle la maison du chapitre? Non. La douleur sur laquelle elle ne pouvait pas mettre le doigt était pour d'autres, en grand nombre. Lampada? Son talent ne savait préciser. Les maîtresses généticiennes avaient essayé d'effacer cette dangereuse faculté de prescience de la lignée Atréide, mais n'avaient obtenu qu'un succès limité. Nous n'osons pas prendre le risque de créer un nouveau Kwisatz Haderach. Elle connaissait l'existence de cette particularité chez leur mère supérieure, mais celle qui l'avait précédée, Taratsa, préconisait plutôt une utilisation prudente de ce talent dans l'intérêt de Bene Gesserit. L'opinion de Taratsa était que la préscience d'Odrad se manifestait sélectivement en présence d'un danger menaçant le Bene Gesserit. Odrad était d'accord avec ce point de vue. Elle connaissait, sans le vouloir, des moments où elle entrevoyait des menaces. Entrevoyait seulement. Et depuis quelque temps, elle rêvait. C'était un rêve qui revenait souvent et qui lui laissait une affreuse impression de réalité, comme si tous ses sens étaient branchés sur le caractère immédiat des choses qui se déroulaient dans son esprit. Elle était en train de franchir pas à pas un précipice sur une corde raide. Quelqu'un, elle n'osait pas se retourner pour voir qui c'était, venait derrière elle avec une hache pour couper la corde. Elle sentait sous ses pieds nus les fibres rêches en torrons. Elle sentait le vent glacé sur sa nuque et ce vent apportait une odeur de brûlé. Et pendant tout ce temps, elle sentait que son poursuivant à la hache se rapprochait de plus en plus. Chaque pas périlleux mobilisait la totalité de son énergie. Encore un, puis un autre, puis un nouveau. La corde oscillait au-dessus du vide et elle écartait les bras le plus possible pour ne pas perdre son équilibre précaire. Si je tombe, la communauté des sœurs tombe aussi. Le Bene Gesserit finirait au fond du gouffre sur lequel la corde était tendue. Il en était de lui comme de n'importe quel autre organisme vivant. Il devait périr un jour. Ce n'était pas une révérende mère qui aurait osé le nier. Peut-être, mais pas ici, pas maintenant, dans cet abîme, avec cette hache. Nous ne pouvons pas permettre que cette corde soit coupée. Il faut que je traverse ce gouffre avant l'arrivée de la furie à la hache. Il le faut. Il le faut à tout prix. Invariablement, le rêve s'achevait là. Sa propre voix résonnait encore dans ses oreilles, tandis qu'elle se dressait au milieu de son lit, le visage glacé. Pas de sueur. Même dans un cauchemar, les protections Bene Gesserit n'autorisaient aucun excès inutile. Le corps n'a pas besoin de transpirer. Le corps ne transpirera pas. Assise dans son bureau en train de se remémorer son rêve, Odrad ressentait toute la profondeur de la réalité sous cette métaphore de la corde fragile. Le fil délicat sur lequel je porte en équilibre le destin de mes sœurs. L'enfant de la mère sentait aussi la proximité du cauchemar et émettait des images éparses d'eau brouillée par le sang. Avertissement lugubre qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Odrad avait envie de se lever et de crier à tous les vents. « Courez, courez mes agneaux, dispersez-vous dans les bois !» Quel choc pour les chiens de garde si elle le faisait vraiment. Le rôle d'une mère supérieure était de faire bonne figure face à ses émois intérieurs et d'agir comme si rien n'avait d'importance en dehors des décisions formelles qu'elle devait prendre. Surtout, pas de panique. Non que ses dernières décisions eussent été de tout repos par les temps qui couraient. Mais avant tout, le calme demeurait de rigueur. Certains agneaux de sa bergerie étaient déjà, sans aucun doute, en train de courir dans tous les sens, dispersés dans l'inconnu, sous la forme de vie partagée au sein de la mémoire seconde. Le reste du troupeau, ici sur la planète du chapitre, saurait à quel moment il faudrait se mettre à courir. Quand nous serons découvertes. Leur comportement leur serait dicté par les nécessités du moment. La seule chose qui comptait vraiment, c'était la splendide formation que toutes les sœurs avaient reçue. On pouvait se fier à leur entraînement. Chaque cellule de Bene Gesserit, quelle que soit son affectation finale, avait reçu le même conditionnement que celle du chapitre. Plutôt la destruction totale que la soumission. Les flammes hurlantes pouvaient s'acharner sur les chairs précieuses et les dossiers fragiles. Tout ce qu'un conquérant trouverait, ce serait des ruines inutiles et des poutres fumantes saupoudrées de cendres. Certaines sœurs du chapitre parviendraient sans doute à s'échapper, mais fuir devant l'attaque, quelle futilité! De toute manière, celles qui détenaient des postes clés avaient déjà partagé leur mémoire seconde, par précaution. La mère supérieure s'était, quant à elle, abstenue de les imiter. Question de morale. Où s'enfuir? Et qui avait une chance de s'échapper? Qui risquait d'être capturé? Telles étaient les vraies questions. Que se passerait-il si Shyanna se faisait capturer à l'orée de son nouveau désert, où elle guettait inlassablement la venue de vers des sables qui n'existeraient peut-être jamais? Shiana a plus les vers des sables, une extraordinaire force religieuse en puissance que les honorés matriarches sauraient peut-être exploiter. Et si les honorés matriarches parvenaient à capturer le Gola Idaho, ou bien le Gola Teg, il n'y aurait plus jamais pour le Bene Gesserit aucun endroit où se cacher si l'une de ces éventualités devenait réelle. Et si, toujours et si. La rage de la frustration lui disait « Nous aurions dû tuer le Gola Idaho à la minute même où il est arrivé ici. Nous n'aurions jamais dû créer le Gola Teg. » Seules les sœurs qui faisaient partie du conseil, du groupe de ses conseillères très proches ou bien des chiens de garde, partageaient les craintes d'Odrad. Elles se contentaient d'émettre des réserves. Aucune d'entre elles n'était vraiment tranquille en présence de ces Gola. Pas même après le minage du non-vaisseau qui permettait de le livrer aux flammes hurlantes à n'importe quel moment. Durant les dernières heures et son sacrifice héroïque, Teg avait-il été capable de voir l'invisible, y compris les non-vaisseaux? Et comment a-t-il su à quel endroit précis il devait nous attendre dans le désert de Dune? Si Teg avait pu faire des choses pareilles, l'inquiétant Duncan Idaho, avec ses talents affinés par d'innombrables générations de jeunes Atreides et autres accumulés, pourrait très bien lui aussi un jour se découvrir de telles capacités. Et pourquoi pas moi? Avec un choc soudain, Odrad prit conscience pour la première fois que Tamalan et Beyonda devaient considérer leur mère supérieure avec à peu près les mêmes craintes que celles qu'elle ressentait elle-même face aux deux Gola. Le simple fait de savoir que la chose était possible, qu'un humain pouvait acquérir la sensibilité voulue pour détecter un non-vaisseau et percer les systèmes de protection qui s'appuyaient sur ce principe, était suffisant pour déstabiliser leur univers. Une telle bombe mettrait certainement en fuite les honorés matriarches. Il y avait d'innombrables rejetons d'Idaho en liberté dans l'univers. Ils se défendaient toujours d'être l'animal reproducteur de ces foutues sorcières. Mais il ne leur avait pas moins rendu maintes fois ce service. Tout en croyant agir de son propre gré, mais il est difficile, dans bien des cas, de faire la différence. N'importe quel descendant de la lignée principale des Atreides était susceptible de posséder ce talent que le Conseil soupçonnait d'avoir fleuri en Teg. Où passaient donc les mois et les années, sans parler des jours? Le temps des moissons approchait de nouveau, et les sœurs étaient toujours prisonnières de ces terribles limbes dont elles n'arrivaient pas à se dépêtrer. Déjà la moitié de la matinée s'était envolée. Les bruits et les odeurs du secteur central revinrent au premier plan des perceptions d'Odrad. Quelqu'un passait dans le couloir. Une odeur de choux et de poulet montait des cuisines communes. Tout était normal, en somme. Mais que signifiait le mot « normal » pour quelqu'un qui vivait avec ses images aquatiques même pendant ses moments de travail? L'enfant de la mer ne pouvait oublier Gameux, ses odeurs, la substance des algues marines apportées par la brise, l'ozone qui rendait riche chaque bouffée d'oxygène, ni la liberté splendide de tous ceux qui l'entouraient, apparente jusque dans leur façon de marcher et de parler. Les conversations sur la mer allaient toujours plus profond, d'une manière qu'elle n'avait jamais pu entièrement pénétrer. Les propos les plus ordinaires prenaient là une dimension immergée, des intonations océanes oscillant au rythme de courants invisibles. Odrad ne pouvait s'empêcher de songer à l'océan de son enfance où elle se laissait flotter. Elle avait besoin de retrouver les forces qu'elle y avait jadis puisées, de se revivifier à des sources datant d'une époque plus innocente. Le visage dans l'eau salée, retenant sa respiration le plus longtemps possible, elle flottait dans un présent marin qui la purifiait de tous ses soucis. La quintessence de la thérapeutique anti-stress. Un grand calme l'inonda. Je flotte, donc je suis. L'enfant de la mer mettait en garde et l'enfant de la mer restaurait. Sans jamais l'avoir admis vraiment, Odrad avait eu désespérément besoin que ses énergies soient restaurées. La veille au soir, elle avait aperçu son propre visage reflété dans l'une des vitres de sa chambre de travail. Elle avait été effrayée de voir la manière dont l'âge et les responsabilités, combinées à la fatigue, lui avaient creusé les joues et rabaissé les commissures de la bouche. Les lèvres sensuelles étaient plus fines, les courbes douces du visage plus allongées. Seuls les yeux bleus sur bleus brillaient de leur intensité habituelle, et sa silhouette générale était toujours haute et athlétique. Mue par une impulsion, elle enfonça quelques symboles d'appel et contempla la projection qui se formait au-dessus du bureau, le non-vaisseau, reposant sur son air de l'astroport du chapitre. Masse géante de machinerie mystérieuse et séparée du temps qui, durant ces années de semi-léthargie, avait creusé sur le terrain une dépression à laquelle elle semblait soudée. Dans ce bloc inerte, tous les systèmes fonctionnaient au ralenti. Dépensant juste assez d'énergie pour se maintenir à l'abri des chercheurs prescients, en particulier les navigateurs de la guilde, qui se seraient fait une joie de vendre le Bene Gesserit au plus offrant. Mais pourquoi avait-elle choisi ce moment précis pour faire apparaître l'image du non-vaisseau? À cause des trois personnes qui y étaient retenues prisonnières. Sital d'un côté, le dernier survivant des maîtres du Tleilax, et de l'autre, Murbella et Duncan Idaho. Le couple lié par le sexe, aussi prisonnier de ce piège mutuel que du non-vaisseau lui-même. Rien de simple dans tout ça. Il y avait rarement une explication simple à donner aux entreprises majeures du Bene Gesserit. Et le non-vaisseau, avec les trois mortels qu'il contenait, pouvait difficilement figurer sous une autre rubrique que celle des entreprises majeures. Et d'un coup ruineux au demeurant. Ruineux en énergie, même quand les systèmes étaient en mode d'attente. L'apparition de cette nouvelle tendance à recenser toutes les dépenses avec parcimonie en disait long sur la crise actuelle de l'énergie. C'était l'un des soucis constants de Beyonda, cela ressortait dans sa voix, même quand elle s'efforçait d'être aussi objective que possible. Jusqu'au fond du tonneau, jusqu'à la dernière goutte. Toutes les sœurs savaient que l'intendance avait les yeux fixés sur elle ces jours-ci et critiquait les moindres déperditions de vitalité inutiles. Justement, Beyonda s'engouffra à ce moment-là, sans se faire annoncer, dans le bureau d'Odrad, avec un rouleau de cristal rédulien sous le bras. Elle marchait comme si elle en voulait au sol, qu'elle piétinait comme pour lui dire « Tiens, prends ça, et encore ça, et ça ». Elle le battait parce qu'il était coupable d'être sous ses pieds. Odrad sentit une constriction dans sa poitrine quand elle vit le regard de Bey. Les documents réduliens claquèrent quand elle les jeta sur le bureau.
« Lampada !»
fit Beyonda d'une voix étranglée de douleur. Odrad n'avait pas besoin d'ouvrir le rouleau pour savoir ce qu'il contenait. Les eaux sanglantes de l'enfant de la mer sont devenues réalité. « Des survivants ?» demanda-t-elle, soudain très lasse.
« Aucun !»
Beyonda se laissa tomber sur le canisiège qui lui était réservé face à la mer supérieure. Tamalan entra à ce moment-là et s'assit sans rien dire près de Beyonda. Toutes les deux semblaient frappées de stupeur. Pas de survivants. Odrad s'autorisa un lent frisson qui partit de sa poitrine pour descendre jusqu'à la plante de ses pieds. Il lui était égal que les autres voient sa réaction révélatrice. Dans cette petite pièce, bien d'autres manifestations de détresse avaient pris place entre sœurs.
Qui a envoyé ce rapport ? Demanda-t-elle.
Il nous est parvenu par l'intermédiaire de nos informateurs du CHOM. Il portait le sceau spécial. C'est le rabbi, sans aucun doute, qui est à l'origine du renseignement.
Odrad ne savait que répondre. Lampada. Elle laissa porter son regard sur la large fenêtre en saillie sur la façade, derrière les deux sœurs. On voyait tomber quelques flocons clairsemés. Oui. Cette sinistre nouvelle allait bien avec l'hiver qui rassemblait ses forces au dehors. Les sœurs du chapitre n'étaient pas contentes de cette soudaine accélération du temps qui les faisait plonger directement dans les frimas. Les nécessités de la situation avaient amené la régulation météo à laisser descendre précipitamment les températures. Pas la moindre transition entre l'été et l'hiver, pas le moindre égard pour tout ce qui poussait, maintenant condamné à entrer dans une hibernation précoce. Chaque nuit, il y avait baisse de 2 ou 3 degrés par rapport à la nuit précédente. En une semaine, tout serait figé dans un froid qui semblerait sans fin. Un froid aussi glacial que cette nouvelle qui nous arrive de Lampada. La conséquence de ce type de temps était la formation de nappes de brouillard erratique. La brume était en train de se dissiper sous les yeux d'Odrad en même temps que les flocons cessaient de tomber. Tout cela était inhabituel et déroutant. Le point de saturation était proche de la température de l'air et la brume était attirée par les endroits qui gardaient l'humidité. Elle montait du sol en filets ouateux qui se déplaçaient à travers les vergers aux branches nues, tel un gaz délétère et sournois. Pas le moindre survivant.
Bayonda secoua de nouveau la tête de droite à gauche en réponse à la question muette d'Odrad. Lampada, un véritable joyau parmi les planètes du Bene Gesserit. Le siège de l'école la plus prestigieuse des sœurs. À présent, une boule sans vie recouverte de cendres et de magma calciné. Et le bachar Aleph Burtzmali, avec sa garnison triée sur le volet, tous morts ?
Tous morts,
fit Bayonda comme en écho à sa pensée. Burtzmali, le disciple préféré du vieux bachar Milesteg, disparut sans aucune contrepartie. Lampada, la fabuleuse bibliothèque, les professeurs éminents, les étudiants brillants, tout cela était perdu.
Même Lucille ?
Demanda Odrad. La révérende mère Lucille, vice-chancelière de Lampada, avait pour instruction permanente d'abandonner la planète au premier signe de danger en emportant avec elle le maximum de vie condamnée qu'elle pouvait absorber dans la mémoire seconde.
Nos informateurs sont catégoriques. Pas un seul survivant,
insista Bayonda. C'était un signal glacial pour toutes les Bene Gesserit encore en vie. La prochaine fois, ce sera peut-être votre tour. Comment une société humaine pouvait-elle être insensible au déploiement d'une telle brutalité, se demandait Odrad. Elle essayait de se représenter la manière dont la nouvelle avait dû être annoncée au petit déjeuner dans une base imaginaire des honorés matriarches. Nous venons d'anéantir une nouvelle planète du Bene Gesserit. 10 milliards de morts, paraît-il. C'est la 6e ce mois-ci, je crois. Voulez-vous me passer le lait, s'il vous plaît, ma chère ? Les yeux presque glacés d'horreur, Odrad prit le rapport sur son bureau et le parcourut sommairement. Cela vient du rabbi, il n'y a pas le moindre doute. Elle repoussa sans bruit le rouleau et releva les yeux vers ses conseillères. Bayonda, vieille, grosse et rubiconde. Archiviste mentat, elle portait depuis peu des lunettes pour lire sans se soucier de tout ce qui était révélé sur elle par ce détail. En ce moment même, elle découvrait ses dents rondes en une grimace qui en disait plus qu'un long discours. Elle avait observé la réaction de sa mère supérieure et cela ne lui plaisait pas. Elle allait sans doute exiger des représailles immédiates. On pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un qui était réputé pour sa méchanceté naturelle. Elle avait besoin qu'on la force à se mettre en mode mentat, où elle se montrerait un peu plus analytique.
À sa manière, Bey n'a pas tellement tort, se disait Odrad. Mais elle ne va pas aimer ce que j'ai en tête.
Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire maintenant. Il est trop tôt pour révéler mon plan.
Il est des circonstances où la barbarie ne peut être contrée que par la barbarie, déclara-t-elle. Mais nous devons faire preuve de beaucoup de prudence.
Là. Avec ça, l'explosion de Bey devrait être désamorcée.
Tamalan s'agita très légèrement sur son siège. Odrad se tourna vers la vieille femme. Tam se réfugiait toujours derrière le même masque de patience critique. Avec sa chevelure neigeuse encadrant un visage étroit, elle donnait toutes les apparences de la sagesse des ans. Odrad voyait cependant à travers ce masque l'extrême sévérité dont elle était empreinte. Son attitude disait qu'elle désapprouvait tout ce qu'elle voyait et entendait ici. Malgré son grand âge, Tamalan donnait une impression de solidité osseuse qui contrastait fortement avec la mollesse apparente de la silhouette de Bey. Tam n'avait pas cessé de maintenir ses muscles dans une forme aussi parfaite que possible. Mais dans son regard, on lisait quelque chose qui donnait le démenti aux apparences. Les premiers signes de désengagement, le lent reflux de la vie. Oh, elle n'avait pas perdu ses facultés d'observation, mais on voyait bien que le processus final était déjà amorcé. L'intelligence légendaire de Tam s'était transformée en une sorte de perspicacité essentiellement fondée sur des observations et des décisions passées, plutôt que sur ce qu'elle avait devant elle dans le présent.
Il faut commencer à songer à son remplacement. Je pense que nous prendrons Shiana. Elle représente un certain danger pour nous, mais elle a des qualités prometteuses.
Et son caractère a été trempé sur Dune. Odrad se concentra sur les sourcils en bataille de Tamalan, qui avait tendance à retomber sur ses paupières en un fouillis trompeur.
Oui, c'est le meilleur choix. Shiana à la place de Tam.
Consciente des problèmes complexes qui se posaient en ce moment, Tam s'inclinerait sans difficulté devant cette décision. Au moment de la lui annoncer, Odrad n'aurait qu'à mettre l'accent sur l'extrême gravité de leur situation.
Mais qu'est-ce qu'elle va me manquer, cette sacrée Tam ?